On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions vu la dernière fois donc que l'article 58 du Code pénal en Russie avait été conçu par les judéums communistes, eh bien, comme un moyen facile pour mettre n'importe quel citoyen comme un criminel politique et donc l'envoyer au goulag. Et Solzhenitsyn, dont nous inspirions, eh bien, n'a pas échappé à cet article 58. Lui-même va être arrêté pour ce motif. Et il raconte bien son arrestation, bien sûr, dans l'archipel du goulag. C'est-à-dire son passage du monde libre, entre guillemets, parce qu'en Russie communiste, la liberté n'était qu'un mot, mais en tout cas d'un monde apparemment libre, jusque pour aller au goulag. Cela se passe quelques mois avant la fin de la guerre, février je crois. Il était sur le front, près de la mer Baltique, et c'était un officier, un capitaine de l'artillerie. Voici maintenant comment il raconte son arrestation. Le commandant de brigade m'avait convoqué au PC. Il me demanda, je ne sais plus pour quel motif, mon pistolet. Et je le lui remis sans soupçonner la moindre perfidie. Donc il pose son pistolet sur la table devant son chef. Et soudain, tout de suite, les officiers, au fond de la pièce, dans un coin, se détachèrent rapidement deux agents du contre-espionnage, qui traversèrent en quelques bonds la pièce et, du même geste, avec leurs quatre mains, m'agrippèrent par les épaulettes et mon ceinturon. Et ils s'écrièrent d'un ton dramatique, « Vous êtes arrêtés ». Brûlé, transpercé de la tête aux pieds, je ne trouvais rien de plus intelligent à dire que « Moi ? Pourquoi ?» D'habitude, cette question reste sans réponse. Mais là, chose étonnante, j'en eus une. La chose mérite mention, tant elle jure avec nos us et coutumes. Les agents du SMERCH, donc c'est les agents du contre-espionnage qui viennent de l'arrêter, le SMERCH, peu importe, c'est le terme russe, avaient tout juste fini de me plumer. Ils se dépêchaient déjà de me pousser vers la porte, quand soudain retentit un appel, adressé à moi d'une voix ferme. Oui, par-dessus l'abîme invisible qui me séparait de ceux qui restaient, passèrent les mots impensables, fabuleux, du commandant de brigade. Solzhenitsyn, revenez. Donc c'est son chef qui le rappelle. En un brusque demi-tour, je m'arrachai au bras des agents du SMERCH et je fis un pas en arrière en direction du commandant. Je le connaissais peu. Il n'avait jamais condescendu à avoir de simples conversations avec moi. Son visage avait toujours exprimé pour moi un ordre, un commandement ou de la colère. Mais en ce moment, une lumière pensive l'éclairait, soit la honte d'avoir participé de force à une sale affaire, ou alors une impulsion soudaine à s'élever au-dessus de la pitoyable subordination de toute son existence. Et peut-être aussi, 10 jours auparavant, je l'avais tiré d'une poche, donc il lui a sauvé la vie il y a 10 jours. Et aujourd'hui, il doit coopérer à l'envoyer au goulag, alors qu'il sait très bien que c'est un bon officier militairement. Et voici qu'à présent, il devait me renier devant un bout de papier marqué d'un tampon. Et là, le commandant lui dit, « N'avez-vous pas, en pesant ces mots, dit-il, n'avez-vous pas un ami au premier front d'Ukraine ?» Et là, « Non !» crièrent les agents du SMERCH, le contre-espionnage. « Vous n'avez pas le droit !» disent donc un capitaine au colonel. La suite des officiers de l'état-major était recroquevillée peureusement dans un coin. On eût dit qu'elle craignait de participer à l'imprudence inouïe du commandant de brigade. Mais ces quelques mots me suffirent. J'avais tout de suite compris que j'étais arrêté pour le contenu de ma correspondance avec un camarade d'école qui était donc sur le front d'Ukraine. J'avais compris d'où pouvait venir le danger. Il aurait pu, et là donc celui-ci va maintenant analyser la réaction de son commandant de brigade. Il aurait pu s'en tenir là, et il donne son nom pour l'histoire, car il a fait un acte courageux, plus que courageux, héroïque vu les circonstances. Il aurait pu s'en tenir là, Zakhar Georgievitch Travkin. Eh bien non. Continuant à se purifier, à se redresser à ses propres yeux, il se leva de derrière son bureau. Et au cours de mon existence d'avant, je ne l'avais jamais vu se lever pour m'accueillir. Et il me tendit la main au travers de la barrière à pestiférer. Et du temps où j'étais libre, il ne l'avait jamais fait. Et son visage, toujours sévère, s'épanouissant de chaleur, prononça rapidement, distinctement, « Bonne chance, capitaine ». Non seulement j'avais déjà cessé d'être capitaine, mais j'étais ennemi du peuple démasqué. Et chez nous, dès la minute où l'on vous arrête, vous êtes démasqué, totalement démasqué. Ainsi donc, il souhaitait bonne chance à qui ? À un ennemi du peuple. Et à cet homme, qui apparemment est insignifiant, voire du système, eh bien, dans la vie de tous les jours, n'avait pas eu le courage, et il a là miraculeusement le courage de faire qu'il n'avait jamais eu le courage d'être avant. Tout à fait étonnant, la vie est pleine de surprises. Mais maintenant, mettons cet épisode en parallèle avec un autre épisode de la vie de Solzhenitsyn, qu'il raconte, dit-il, avec honte. Ça le concerne, c'est lui maintenant. C'est-à-dire que là, on a vu donc un homme dans une situation très périlleuse qui va avoir le courage de faire ce qu'il pouvait, de ne pas coopérer en tout cas. Il n'avait pas le moyen physique de faire plus. Mais dire ce qu'il a dit, faire ce qu'il a fait, c'était déjà énorme. Et il a fait ce qu'il a pu, au risque de sa propre arrestation. Et là, on va voir maintenant, c'est Solzhenitsyn qui... Donc on a l'histoire d'un bourreau qui ne veut plus être bourreau, et puis donc, face à sa victime qui est Solzhenitsyn. Maintenant, le bourreau va être Solzhenitsyn lui-même, alors qu'il était libre. Ceci se passait lors du nettoyage, ou plutôt du pillage de la poche de Bobowicz. Donc peu importe, c'est un événement militaire. Donc pillage des Russes que les Russes faisaient facilement. Je marchais le long de la route, au milieu des véhicules allemands détruits et renversés. Un butin luxueux de guerre était éparpillé sur le sol. En contrebas, des chariots et des voitures s'étaient embourbés de gros chevaux de trait allemands qui erraient sans maître. Soudain, j'entendis un appel au secours, un hurlement. « Monsieur le capitaine ! Monsieur le capitaine !» Et j'aperçus un homme à pied, vêtu d'un pantalon allemand, torse nu, le visage, la poitrine et les épaules et le dos, tout ensanglantés. S'exprimant dans un russe parfait, sans le moindre accent, il me criait de lui venir en aide. Un sergent des sections spéciales, donc le contre-espionnage, là encore, le sergent idéologique, était à cheval. Il le faisait avancer devant lui à coups de fouet en le talonnant avec son cheval, l'empêchant de se retourner et d'appeler au secours. Il le poussait devant lui et il le battait, laissant à chaque fois de nouvelles marques rouges sur sa peau. Nous n'étions ni autant des guerres puniques, ni autant des guerres médiques. Donc les guerres puniques, c'est 100 ans avant Jésus-Christ, et les guerres médiques, c'est 800 ans, 500 ans avant Jésus-Christ. Là encore, il ne faut pas croire que la cruauté humaine, c'était il y a très longtemps. C'est du présent, la cruauté humaine. Tout officier, dit Solzhenitsyn, revêtu de quelque pouvoir, à quelque armée qu'il appartienne sur cette terre, se devait de mettre fin à ce supplice arbitraire. Évidemment, sa conscience lui parle et lui dit ce qu'il doit faire. Va-t-il le faire ? Dans n'importe quelle armée, certes, mais dans la nôtre. C'est pas une armée comme les autres, c'est une armée idéologique. Avec notre dichotomie féroce et absolue de l'humanité, si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas des nôtres et tu ne mérites que le mépris et l'extermination. C'était une logique fanatique et religieuse en même temps, le communisme, alors que ça se prétendait matérialiste, scientifique. Eh bien, j'ai eu la frousse de défendre ce prisonnier contre le sergent des sections spéciales. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, j'ai passé outre comme si je n'avais rien entendu. de peur que cette peste, reconnue par tous comme telle, ne se transmît à moi et à mon tour. Et si ce prisonnier était peut-être un super criminel, méritait bien quelques coups de fouet. Et si le sergent allait mal penser de moi, il ferait un rapport. Et si. Et d'ailleurs, il y avait plus simple pour quiconque était au courant de la situation qui régnait alors aux armées. Ce sergent des sections spéciales aurait-il obéi à un capitaine de l'armée? En soi, le capitaine avait pouvoir immédiat. Oui, mais attention, c'est un capitaine non idéologique qui parle à un sergent idéologique. Et là, ça change tout. Le visage empreint d'une expression de bête phobe, le sergent continua à cingler et à pousser en avant, comme du bétail, cet homme sans défense. Ce tableau est resté à jamais gravé devant mes yeux, car il est presque le symbole de l'archipel. On pourrait d'ailleurs illustrer ce livre, de cette couverture ce livre. Donc on avait là un sergent idéologique qui valait plus qu'un capitaine non idéologique. Et pourquoi cette histoire résume, dit-il, bien le problème du goulag, et donc le problème de notre monde? Parce que qu'est-ce qu'on a dans cette histoire? On a du respect humain, on a la peur. On a la peur de faire ce que notre conscience nous montre. Parce qu'il va falloir souffrir pour la justice, pour faire son devoir. Mais ça, c'est tout le monde a connu ça. Pas besoin d'avoir été à la guerre sur le front de russe. Peur, lâcheté de faire son devoir parce que ce devoir nous fait souffrir. On a tous connu ça et on va le connaître encore. Il y a aussi le mépris de la vérité. Une vérité qui se fait jour, mais elle nous gêne. Alors on la méprise. Donc refus de souffrir pour la vérité et la justice. Puis c'est si, puis tant pis, voilà. C'est comme ça que ça finit. Et nous verrons cela en détail plus tard. Mais disons-le tout de suite. Le capitaine Solzhenitsyn, qui était pourtant libre, hors du goulag, hein, il ne connaissait pas encore l'univers du goulag à cette époque-là, eh bien il venait de réagir selon la logique du goulag. Comprenons bien que le goulag, c'est pas seulement la prison avec les barbelés. La logique du goulag, c'est une logique matérialiste et égoïste, qui se résume en cette phrase simple que nous verrons plusieurs fois. Peu importe que tu crèves aujourd'hui, tant que moi je reste en vie. Peu importe. Notre Seigneur le disait cela. Bien sûr, notre Seigneur, c'est l'anti-goulag, c'est l'anti-philosophie du goulag. Notre Seigneur nous dit. Mais ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu viens à perdre ton âme? Il y a quelque chose de plus important que la vie sur terre. C'est la vie de l'âme éternelle. Et ça, c'est bien sûr l'anti-goulag, l'anti-philosophie du goulag. Parce que le goulag, c'est le contraire. C'est peu importe que tu crèves aujourd'hui, peu importe les injustices, tant que moi je reste, tant que moi je gagne le monde. Et donc, en fait, quand une majorité de gens pensent ainsi, dans cette logique du goulag, eh bien, le goulag barbelé, lui, est prêt à émerger, puisqu'il existe déjà dans la pensée des gens, dans le cœur des gens. Quand l'amour de Dieu disparaît, eh bien, l'amour de l'homme va disparaître avec. Et donc, les cruautés que le goulag a engendrées, eh bien, viennent de cet abandon de Dieu. L'idéologie matérialiste du communisme avait chassé Dieu et donc toute idée même de religion. Ni Dieu ni maître, disaient les anarchistes. La réalité et la conséquence de ce refus de Dieu, eh bien, est que l'homme allait devenir l'esclave de l'homme. Dès que l'homme qui a le pouvoir n'a plus cette conscience de sa soumission et de son service de Dieu, eh bien, il considère les hommes comme ses esclaves. Très vite. Quand on chasse le vrai Dieu pour une idole, une idéologie, eh bien le caprice de l'homme va remplacer la volonté de Dieu. Et la nouvelle dignité, eh bien qui va être dirigée par un esprit démoniaque et ténébreux, qui va exiger, comme par le passé, des sacrifices humains, la cruauté humaine. Solzhenitsyn donne plusieurs, bien sûr, de nombreux exemples de cette perversion humaine face à l'idole. Car le communisme avait beau prétendre ne pas être une religion, était une religion, mais une religion humaine, une idolâtrie humaine. Il donne l'exemple de Elisabeth Tcheskova, qui purgeait sa peine dans la maison centrale de Kazan en 1938. Et elle reçoit, donc avant la guerre, elle reçoit une lettre de sa fille qui a 15 ans. Donc lettre d'une fille de 15 ans à sa mère qui est au goulag, en prison. « Maman, écris-moi si tu es coupable, oui ou non. Je préfère que tu ne sois pas coupable. » Et dans ce cas, je n'entrerai pas au Komsomol, c'est-à-dire un organisme officiel du Parti communiste qui, où vous ouvrez bien la vie facile socialement. Et je ne pardonnerai à personne ce qui est arrivé. Mais la fille continue. Mais si tu es coupable, je ne t'écrirai plus et je te haïrai. Donc là, on a une fille de 15 ans qui a bu l'idéologie communiste. C'est une religion. C'est une religion, la preuve. Notre Seigneur dit bien dans l'Évangile, si vous n'êtes pas capable, si tu ne hais pas ton père, ton frère, ta mère, ta sœur, tes enfants, ton bien et ta vie même, vous n'êtes pas digne de moi, vous n'êtes pas mes disciples. Donc en effet, quand il y a un conflit entre quelque chose de la terre et Dieu, mais Dieu est la source de l'être, Dieu est bon, il faut choisir Dieu, quitte à perdre père, mère, enfant, bien, maison et même ma vie. Et ça, c'est vrai que de Dieu. Dès que vous transposez cette logique religieuse absolue, totale, entre deux choses de la terre, ça devient de la tyrannie, de satanisme, ça devient une cruauté. Et le communisme, lui, a bien sûr assumé ce totalitarisme, mais de manière indue. Et c'est ce que fait cette fille. Si tu n'es pas une bonne communiste, maman, je te haïrai. Par contre, il y a quand même la fibre, l'instinct, et puis l'amour filial. Par contre, si tu es innocente, ben je mépriserai ce système qui t'a condamné parce que tu es ma mère et tu es innocente. Donc, il y a un conflit. Que va faire la mère? Que va répondre la mère? Et la mère alors se ronge dans l'humide cercueil de sa cellule à la lampe livide. Comment imaginer sa fille, la vie de sa fille, primée de Komsomol? Okay. La mère, elle va être dans un autre conflit, conflit de l'instinct maternel qui cherche le bien de ses enfants. Oui, mais de manière peut-être trop charnelle, uniquement une vie tranquille, socialement. Alors il faut qu'elle rentre comme Komsomol, alors il faut que je dise que je suis coupable. Et comme ça, je protège la vie de ma fille, la vie sociale, la vie terrestre de ma fille. Oui, mais en faisant ça, elle ment. Et puis, elle l'empêche de voir clair sur l'imposture du système. Vous voyez le conflit d'une maman en prison qui reçoit cette lettre de cette fille de 15 ans. Comment elle-même imaginait de sa fille vivre en haïssant le pouvoir communiste en Russie communiste? Comprenez bien que cette fille, elle ne va pas avoir la vie facile. Eh bien, elle conclut. Eh bien, plutôt qu'elle haïsse sa mère. Et elle lui répond, je suis coupable, entre au Komsomol. Maintenant, Solzhenitsyn fait cette remarque. Et si ça, c'était pas pénible? Mais c'est une chose insupportable pour le cœur humain. Tomber sous le coup d'une hache qui vous est chère, devoir trouver des raisons pour la justifier. Mais, donc c'est cette folie. Mais ça, c'est le prix que paye l'homme pour avoir confié l'âme que Dieu lui avait donnée à un dogme fait de main d'homme. Il y a un prix à payer quand on veut vivre sans Dieu. Et nos concitoyens vont le payer, ce prix, comme les Russes l'ont payé. Aujourd'hui encore, n'importe quel communiste orthodoxe vous confirmera que Tcheskova a agi correctement. Oui, elle a sauvé le parti, elle a sauvé Dieu. Elle a sauvé l'honneur de Dieu en sauvant l'honneur du parti communiste. Voilà ce que disaient les gens imbus dans cette propagande. Impossible encore aujourd'hui de les convaincre que voilà un cas typique où l'on scandalise un de ses petits et que cette mère a scandalisé sa fille et elle l'a blessée dans son âme. Et Solzhenitsyn donne des dizaines d'exemples de ce genre. Telle femme qui va témoigner à charge en toute sincérité contre son mari. Parce que la seule chose qui comptait était de venir en aide au parti. Ou un autre qui déclare, si je sors, quelqu'un qui est au goulag depuis 15 ans, 10 ans, si je sors un jour d'ici, je vivrai comme si rien ne s'était passé. Je ne dirai rien contre le parti. Pas seulement par peur. Parce qu'ils avaient l'intelligence pourrie. Ils croyaient à l'idole. Un autre, qui a passé 17 ans au goulag, dira « Nous avions foi dans le parti et nous ne sommes pas trompés. » 17 ans de goulag et ils croient encore au parti. C'est juste un dysfonctionnement humain quelque part, mais le parti reste bon. 17 ans de goulag. Et des exemples, il en donne comme ça des dizaines. Bien sûr, il n'y a pas eu que ces exemples-là, mais ils sont caractéristiques. Ils avaient une foi religieuse. Mais nos concitoyens ont une foi religieuse dans les droits de l'homme, dans la démocratie, dans la République, et ils pensent que ce qui en fait les tue est leur sauveur. Il faut lutter contre la haine, faisons tous corps pour sauver la République en danger. Vas-y, fais corps. C'est exactement ce que dit au goulag. Nous avons eu raison, nous ne sommes pas trompés, alors qu'il tue la France depuis 2 siècles. Donc c'est une pure folie, c'est un aveuglement absurde qui est le salaire, le châtiment de l'homme qui a cru dans l'homme, dans la volonté de l'homme, et qui a nié l'existence de son créateur, de ses lois objectives et de ses volontés. De telles masses aveuglées, eh bien, croient dans leur bureau, dans leur bourreau, comme aujourd'hui. Cela ne vous rappelle pas un peu ce que nous vivons? On est en train de... La masse, de manière, je ne sais pas dans quelle proportion, est en train de louer les gouvernements qui sont en train de les tuer au nom d'une fausse pandémie, d'une urgence sanitaire. La masse aveuglée approuve les lois liberticides d'un Macron ou d'un Philippe parce qu'elle se croit être protégée d'un dangereux virus qui est une imposture, un prétexte, alors que la mortalité est équivalente à une grippe sévère. Des choses qu'il y a tous les ans. Tous les ans, il y a cette même mortalité que nous avons connue. Et donc, toute notre économie, notre liberté ont été bafouées pour rien. Pour des intérêts qui sont idéologiques, diaboliques, mondialistes, mammonites. Et la masse, victime, dit merci. Elle en redemande, oui, plus de sécurité, oui, moins de liberté. Elle est complètement, elle est robotisée. Et je répète cette phrase de Solzhenitsyn, c'est le prix que paye l'homme pour avoir confié l'âme que Dieu lui a donnée à un dogme fait de main d'homme. Tout est là. Ça résume nos malheurs. Alors vous commencez à comprendre pourquoi nous disions eh bien, que nous vivions déjà dans un goulag. Il n'y a pas besoin de barbeler. Hein. Et les exemples futurs eh bien, nous feront que confirmer cela. Toujours pareil, les leçons, vous voyez que en voyant les ténèbres, nous comprenons mieux la puissance de la lumière et le bienfait de ces préceptes évangéliques. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Donc oui, attention, mettons notre tout notre être dans les commandements de Dieu, dans la volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit est un policier, allez, paniquez, 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 paniquez. Paniquer. On a le monde à notre botte, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares, qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça tant qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Respirez plus.